Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, ainsi qu'à l'équipe technique de Radio Courtoisie. Au micro, Marc Favre des Chalins. Je reçois aujourd'hui Philippe Pichon, qui sera avec nous par téléphone. Philippe Pichon, vous le connaissez déjà, il a déjà participé à plusieurs émissions, et en particulier une en fin d'année concernant son livre Les Hussards Mousquetaires des Lettres, des années Solex aux minutes McDo. C'est un livre qui est paru aux éditions du Verbe Haut, qui est une maison d'édition de Lorraine. L'émission aura pour thème le renouveau de la nouvelle comme genre littéraire. Auparavant, comme il est d'usage, je rappelle les coordonnées de défense de la langue française, son adresse postale, 222 avenue de Versailles, 75 016 Paris, son numéro de téléphone 01 42 65 08 87, son adresse courriel dlf.paris@club-internet.fr, et enfin son nouveau site internet www.langue-française-sans-cdi.org. Nos auditeurs qui le désirent peuvent demander un exemplaire de notre revue trimestrielle de 80 pages afin d'avoir une connaissance plus approfondie des activités de défense de la langue française. Ces activités sont diverses et variées. Nos auditeurs connaissent un petit peu ces actions. Les adhérents et sympathisants agissent sur le terrain et en particulier auprès de la presse écrite pour la qualité de la langue et lutter contre les dérives de l'écriture faussement inclusive et les utilisations abusives de néologismes, souvent en provenance de l'anglais mondialisé, ou lutter contre les incorrections que l'on entend très fréquemment, par exemple sur les chaînes de radio, naturellement pas à Radio Courtoisie. Ainsi, l'on entend souvent, concernant les bulletins de météo, qu'une température est froide ou chaude, alors non, alors qu'une température peut être basse ou élevée, mais ne peut pas être froide ou chaude. C'est un exemple parmi tant d'autres. Comme nous sommes en période estivale, je demande aux auditeurs qui voyagent et qui ont l'occasion d'être sur des sites, de visiter des sites touristiques à l'étranger, de nous faire part, de faire part à Défendre la langue française au numéro que j'ai indiqué ou à l'adresse internet, de nous faire part si sur les lieux touristiques de leur déplacement et de leur visite, ils constatent une présence nouvelle du français ou une absence. C'est toujours très intéressant de faire ce type de relevé. Concernant les activités des associations, il n'y a pas que Défense de la langue française, il y a également Avenir de la langue française et d'autres associations qui agissent. Les associations agissent également par l'organisation de dictées. Il y a les dictées qui sont organisées par Jean-Pierre Collignon, qui est un administrateur de défense de la langue française. Il suffit d'aller sur son blog, le blog Jean-Pierre Collignon, et vous verrez les dictées qui sont proposées. Et il y a également dans toute la France la dictée géante de Rachid Santaki, qui organise des dictées, souvent en collaboration avec les villes ou des stations de radio ou des gares. Ainsi, le jeudi 23 juillet 2026 à Villers-le-Bel, à 15h, il y a une dictée organisée, il faut aller sur le site de la ville, Villers-le-Bel, et le jeudi 30 juillet, à Le Cat, nous ne sommes pas dans la même région, à 21h, il faut également aller sur le site de la ville. Il y a également des nouvelles dues aux actions des différentes associations. Les associations agissent malheureusement devant les tribunaux, devant des faits qui sont contraires à la loi Toubon, la loi du 4 août 1994, notamment concernant l'absence de diversité linguistique, puisque les collectivités publiques ou établissements publics qui utilisent des traductions doivent le faire en deux langues, c'est-à-dire que s'il y a du français et une autre langue, il doit y avoir une deuxième, pour pas avoir le sempiternel face à face français-anglais. C'est ainsi qu'il y a eu un jugement du tribunal administratif qui a demandé au site ornithologique du Tech de rajouter une langue. Et il y a également une action qui a été intentée cette fois-ci par Défense de la langue française, Concernant la plateforme de santé Health Data Hub, donc, qui est un organisme public qui est en anglais, donc il y a des conversations, des négociations pour que cette terminologie disparaisse du site et afin qu'elle s'appelle plateforme des données de santé, ce qui est tout de même plus clair pour tout le monde. Avant de passer à l'entretien avec Philippe Pichon, je vais citer quelques ouvrages pour les vacances. D'ailleurs, les livres de Philippe Pichon, qui a écrit deux ouvrages de nouvelles, qui s'appellent « Court lettrage », chez l'éditeur Sans Crispation. Et on lit effectivement Sans Crispation. Il y a le tome 1 à 19 euros et le tome 2 à 20 euros. Il y a une petite augmentation entre les deux tomes. Et donc nous allons en parler dans quelques instants. Et il y a également quelque chose de très intéressant de Jean Pruvot, Dieu à travers les mots et leur histoire, chez Desclés de Brouwer, 20 euros, 20,90 euros. Ce qui permet de faire quelque chose d'intéressant. Donc avant notre entretien, nous allons passer une chanson, la chanson de Serge Lama qui a été proposée par l'invité, La vie lila, et après nous aurons au téléphone Philippe Pichon. Alors je rappelle que Philippe Pichon est écrivain, essayiste, critique, poète, maître S-jeu de l'Académie des Jeux Floraux, et il va nous parler de ses ouvrages et de ses nouvelles.
Dessous l'arbre, une robe bleue. À côté, une robe rouge, sous un ciel d'hiver, entre gris et vert, qui nuage et qui pleure à moitié. Derrière l'arbre, un bout d'horizon. Au lointain, pas même une église, juste une maison. Est-ce leur maison ou bien celle des moutons? C'est la vie lila, faite de métamorphoses. C'est la vie lila, quand il me manque quelque chose dans cette vie-là, où tu n'es pas là, et que pour être moins triste, je détaille la peinture de l'artiste. Et ma chambre devient le tableau sous mes pieds, la campagne humide est comme un tapis de terre et de pluie. Tout à l'heure, elles vont s'y allonger pour mêler robe rouge et bleu dans le lac d'un amour sans ride, pour se consoler d'être abandonné par leur petit fiancé. C'est la villa, faite de toutes ces choses. C'est la villa, quand il me manque quelque chose dans cette villa, où tu n'es pas là, où je reste seul en piste. C'est ma vie. Moitié bleu et moitié rose, c'est ma vie. n'es pas là, et que pour être moins triste, je retouche la peinture de la rétiste.
Vous êtes sur Radio Courtoisie, au micro Marc Favre des Chalins. Je crois que nous avons en ligne Philippe Pichon.
Oui, bonjour Marc, merci de votre invitation.
Voilà, donc alors Philippe Pichon, nous connaissons, nous avons déjà fait, je crois, deux émissions ensemble. Alors je prends de vos nouvelles, si j'ose dire, puisque j'ai devant moi deux ouvrages de nouvelles, Court Létrage 1 et Court Létrage 2, qui sont parus aux éditions Sans Crispation.
Oui.
Et donc, j'ai l'impression que le genre littéraire des nouvelles reprend de la vigueur, ou c'est un choix de votre part de d'écrire.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans le thème que vous avez proposé à nos auditeurs, le renouveau, premier mot intéressant, de la nouvelle, deuxième mot intéressant, comme genre littéraire, troisième mot intéressant. Peut-être on va tenter une petite définition, mais je dis tout de suite que plutôt qu'un renouveau, je pense que c'est plutôt une réhabilitation d'un genre, et en effet littéraire plutôt qu'une nouvelle qui serait une brève de comptoir, quoi. Alors, en travaillant l'émission, je vais vous proposer une définition qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui, à mon avis, et ça va nous ramener jusqu'à nos courts-métrages, permet d'identifier tous les ingrédients, comme dans une recette de cuisine, qui permettent de dire c'est une nouvelle. Alors d'abord, c'est un genre littéraire, vous l'avez dit, en prose, qui est à distinguer du conte ou du roman, on verra que ça n'a pas été toujours le cas, généralement bref, de construction dramatique, souvent linéaire, le récit est souvent linéaire, qui présente peu de personnages, dont la psychologie est sommaire, et n'est étudiée par la personne qui vous raconte l'histoire que dans la mesure où ils réagissent à l'événement qui fait le centre du récit, et dans un espace-temps qui est lui aussi resserré. Je crois que là, on a les ingrédients d'une définition de la nouvelle. Parce que peut-être faut rappeler à nos auditeurs que la nouvelle ne naît pas ni avec les anglo-saxons, ni à notre époque. Pour moi, le premier auteur de nouvelles, c'est Marguerite de Navarre avec l'Heptamérone. Vous savez, ce livre, son dernier livre inachevé, c'est à peu près 72 nouvelles, Hepta, hein, donc 7 jours. Le récit se dure sur 7 jours, non pas octo.
On vous entend un petit peu mal.
Ouais. Oui. Ah, est-ce que vous m'entendez
mieux? Oui, là c'est mieux là.
D'accord. Donc pour moi, Marguerite de Navarre. Et dans l'esprit de nos auditeurs, je pense que la nouvelle, allez, on va dire classique, naît plutôt au XVIIe siècle, avec des gens qu'on connaît absolument plus, en tous les cas, que le grand public, à mon avis, ne connaît plus, que sont François de Rosset, que sont Segret, que sont Bussy-Rabutin, que sont Saint-Réal.
Un petit peu plus, le dernier... Monsieur Rabutin, mais effectivement, les noms sont complètement perdus.
Voilà. Et peut-être que par rapport, on va, si vous voulez bien, Marc, tendre le coup tout de suite à une sorte de lieu commun. La nouvelle ne vient pas de la novelle, qui veut dire roman en anglo-saxon, mais plutôt de l'Italie, avec Bandello. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce nom-là. Donc on est au XVIe siècle, je dis bien. Les histoires tragiques. Et c'est quelque chose entre le monstrueux et le grand guignol. Et c'est à partir de là, de sa traduction, que les auteurs dont on a parlé, Rosset, Segret, Rabutin et Saint-Réal, vont être à la tâche, si je puis dire. Alors, dans toutes ces nouvelles, l'idée... Donc, c'est une abondante production littéraire qui va avoir succès durable, non seulement au 17, mais jusqu'au 17, jusqu'à nos jours. C'est mettre en scène des êtres démoniaques. Alors, quand je dis démoniaques, c'est livré aux passions les plus noires. Ça peut être des crimes abominables, ça peut être des perversions inouïes, etc. Et je ne sais pas si vous en rappelez, Marc, mais La Fontaine a fait des contes et nouvelles, mais ils étaient en vers. Et donc, c'est pourquoi je les ai écartés un petit peu. C'était, vous savez, ces contes à rire. Perrault a fait également de la nouvelle. Là, c'est pas la peine que je vous les donne. Vous les connaissez évidemment par cœur. Pour nos plus jeunes,
je ne crois pas. Auteurs,
on peut quand même rappeler que Cendrillon, La Belle au bois dormant, Barbe bleue et autres ne sont pas nés sous la plume de Disney, mais bien de Perrault quand même. Hein.
Oui, absolument.
Plaisir de le rappeler. Vous, ce que vous appelez la nouvelle moderne, je n'ose pas encore le mot de contemporain puisqu'on est au 19e siècle, ça apparaît, si vous voulez, grosso modo, à l'époque romantique, avec ce qu'on a appelé le romantisme noir.
Je vous coupe. La nouvelle, c'est toujours quelque chose de court ou pas forcément, parce que j'ai lu plusieurs de nouvelles. Il y a certaines de vos nouvelles qui sont pas courtes au sens de nombre de pages, disons.
Alors, la nouvelle, ça dépend du nom, du format de la page, déjà, pour commencer. Oui. Mais vous avez Maupassant, j'allais y venir, qui a fait des, je pense à Boule de Suif, Bel Ami, qui a fait des nouvelles qui font une petite centaine de pages. Quand je dis que c'est court, si vous voulez, c'est pas les romans fleuves de Jules Romain, d'Aragon, etc. On est dans quelque chose de condensé et de resserré, en tous les cas, dans le déroulement du récit. Mais vous avez raison de le dire, parce que ça a parfois été des textes plus courts encore. Vous savez, tous ces gens sortis ou en plein dans le romantisme, donc Charles Nodier, Nerval, surtout Gautier, qui est à mon avis le premier grand nouvelliste, si vous me permettez l'expression, du 19e siècle, avec ce qu'on a appelé la morte amoureuse. Donc ça, on est au début du 19e siècle. Il tend de dire, puisqu'on est toujours dans le romantisme noir, Gautier dit « les morts sont les êtres les plus amoureux que je connais », c'est toujours très drôle. Et là, peut-être aussi, il faut rappeler que l'essor de la nouvelle, toujours comme genre littéraire, est lié au développement dans les journaux, par exemple le Mercure, de feuilletons de fantaisie, comme on disait à l'époque, et qui va faire apparaître, je crois que c'est Gautier qui l'invente, mais j'en suis pas sûr, ça sera vérifié, ils inventent le terme de « fantastique ». Nouvelle fantastique, vous rappelez, hein, nouvelle fantastique d'un tel, je parle pas d'Edgar Poe, parce que ne comptez pas sur moi pour parler de la littérature anglo-saxonne, je vous avais prévenu dès la fin de notre entretien.
Excusez-moi, vous avez eu le prix de la nouvelle d'Edgar Poe sur l'une de vos nouvelles, une nouvelle...
Vous êtes capable de le donner.
Voilà. Elle s'appelle Le Monde d'après, ou La Vertu
absolument.
De l'incertitude.
Absolument.
C'était en 2024, je crois, voilà.
C'était il y a deux ans, absolument, absolument. Parce que je trouve qu'on a suffisamment de matière en France pour pas aller chercher du côté du monde anglo-saxon. Vous avez vu que mon auditeur lui-même ne cite pas un seul auteur français, mais va du côté de l'anglo-saxon, ce qui me paraît un peu fou, mais peu importe. Et vous rappelez qu'on était en réalité à l'époque, on bascule du mot nouvelle peut-être au mot conte, c'est là où je voulais en venir. Il y a ces deux grands auteurs que j'aime beaucoup dans leur folie, leur perversion même, on pourrait dire, que sont Barbet d'Aurevilly et Villiers de l'Isle-Adam. Pour nos auditeurs, on rappelle peut-être deux titres. D'Aurevilly, c'est Les Diaboliques, ce fameux film également adapté hein, qu'on connaît.
C'est une nouvelle, et c'est une nouvelle.
C'est une nouvelle, absolument, qui fait partie d'un recueil qui porte le même nom, si ma mémoire est bonne. Et Villiers de l'Isle-Adam, c'est les fameux contes cruels de Villiers de l'Isle-Adam. Mais la nouvelle telle que vous l'entendez, et moi aussi, la nouvelle classique, je mets classique entre guillemets, hein, Marc, parce qu'on ne sait plus trop ce que moderne classique veut dire, c'est pour moi Flaubert. Il a fait un petit recueil de trois nouvelles, dont ce fameux Un cœur simple. Vous rappelez de l'histoire, certainement, cette domestique qui, petit à petit, avec des choses simples, va se raccrocher à la vie grâce à un perroquet qui est devenu chapeau, etc., etc. Et puis, surtout, pour le grand public, c'est Maupassant, on le dit jamais assez, en 10 ans, donc grosso modo 1880-1890, il va faire 16 volumes de nouvelles, c'est-à-dire plus de 300 nouvelles, Maupassant. Donc, on connaît les plus importantes. J'ai cité Boule de Suif tout à l'heure, parce qu'en réalité, c'est sa première. Hein, vous savez, Soirée de Meudon, tout ça, avec Zola, etc.
Oui, oui, les deux amis de Maupassant, les nouvelles.
C'est ça, hein,
terrible.
Voilà. Terrible. Une vie, Belle Amie, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, La Petite Croque, lui, avec un point d'interrogation, vous rappelez de cette nouvelle, et Le Horla, évidemment, parmi les plus connus, et vous avez compris qu'on passe d'un registre, là encore je vais mettre des guillemets chez Maupassant, de réaliste à quelque chose de complètement fou. Le terme est peut-être mal choisi, puisque à l'époque, la médecine de l'aliénation, j'allais dire aliéniste, fait beaucoup de progrès, et Maupassant lui-même, peut-être on peut le rappeler, est devenu fou avec, comme Artaud, une sorte de dédoublement du moi. Ce qui était intéressant dans l'écriture de Maupassant, c'est qu'il y avait un premier jeu qui pouvait être celui de l'écrivain, Maupassant, mais un deuxième jeu qui était celui ou de Maupassant et du narrateur pour introduire un troisième jeu, ce qui veut dire que ce fameux roman Nouvelle en miroir a fait qu'on a dit de Maupassant qu'il est le premier à avoir peut-être même influencé l'écriture contemporaine. J'ai cité Artaud, etc., etc. Il avait un très beau, puisqu'on parle de Maupassant, il avait un très beau mot qui disait: quand j'écris une nouvelle, je veux surprendre l'humanité sur le fait. Oui. Et je crois que c'est ça la nouvelle. C'est-à-dire qu'on a dit que la nouvelle était un genre littéraire difficile à cerner, en tous les cas nettement. Et je pense que la nouvelle, c'est en cela qu'elle se distingue du roman, par sa plus grande brièveté, pour répondre à votre question, et par le privilège accordé à l'imaginaire, au moins autant qu'à la fiction.
La nouvelle peut être un peu autobiographique ou pas, ou transformer sa vie en nouvelle ou...
Alors, vous savez, hein, tous les écrivains transforment un peu en leur vie, et vont chercher des choses dans leur vie pour aller le mettre dans une nouvelle. Donc alors après, si elle ne peut pas être à proprement autobiographique ou autofictionnelle, comme on dit beaucoup depuis Solaire et toute sa clique, je pense que les meilleures nouvelles sont quand même des nouvelles où la part de l'imaginaire et de la fiction... On la part belle, quoi. Hein.
Absolument.
L'idée, quand même, parce que moi, on m'en parlera peut-être, je vous donnerai des adresses où vous pouvez aller vous faire héberger de ma part, Marc. Il y a quand même de grands auteurs encore au 20e. Il y a eu de grands auteurs, il y a encore de grands auteurs, de nouvelles, de moins en moins, de nouvelles au 20e siècle. Mais l'idée, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que la trame est souvent facile à résumer. Elle veut intéresser en étonnant ou en plongeant le lecteur dans une narration dont il attend la fin, mais jusqu'au bout, il se pose cette question, si vous voulez, que va-t-il se passer? Or, si vous racontez votre vie, bon, je vois pas en quoi, en tous les cas, la mienne serait plus intéressante que la vôtre ou celle d'un lecteur, donc on attend quand même plus de l'imaginaire et de la fiction que de l'autobiographie pour répondre directement à votre question.
D'accord.
Ce qui fait, d'un mot, parce que je vais oublier, c'est que l'unité, contrairement au roman, l'unité se fonde sur le resserrement. C'est-à-dire plus la nouvelle est resserrée, les canons disent meilleur elle est.
D'accord. Et Alphonse Allais, il faisait des nouvelles un peu, cette fois-ci pas fantastiques, un peu comiques, un peu...
Comme l'a fait à peu près à la même époque, cet auteur qui vient du théâtre, dont j'oublie le nom, ce qu'on aurait pu un peu appeler les rêvons de le Vos du coin. Donc il y avait Allais du billard, chercher le nom du
voilà.
Second. C'est-à-dire qu'on est carrément dans le qui a fait quoi, si vous voulez.
Voilà.
C'était
très court. Alphonse Allais.
C'était très court. Et c'était, on était plus proche de l'absurde de Ionesco et de Beckett que de ces romanciers dont on a parlé. Parce que la plupart du temps, ça c'est important de le dire, les nouvellistes ont une autre activité, ont un autre genre littéraire à leur arc, des gens qui n'auraient écrit que des nouvelles, je n'en connais pas. Mais pardon de cette inculture, peut-être qu'ils existent. Ce qui veut bien dire, c'était une conversation qu'on a eue en préparant l'émission, que pendant longtemps, et c'est pourquoi je conteste un peu votre mot de renouveau, mais de réhabilitation, pendant longtemps, en France en tous les cas, malgré des réussites indéniables, hein, on pourrait parler de Morand également, d'Antoine Blondin et de quelques autres. On revient au Hussard. Le genre a été bouté du grand public. À peu près ignoré toujours des jurys littéraires, hein, et considéré, allez, je vais le dire, comme inférieur au genre romanesque.
C'était un peu une historiette, des historiettes un petit peu.
Exactement, vous étiez sous-romancier, oh là là, il ne peut pas faire un grand roman, etc.
Oui.
Et je crois que les temps ont changé, c'est ce que vous dites dans la proposition que vous faites du thème de l'émission, même si les deux genres, enfin le rapport entre les deux genres, c'est encore pas inversé, parce que la nouvelle a perdu, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire son support naturel qui est le journal, le magazine ou la revue, puisque moi j'ai du mal avec le web, qui n'est pas pour moi un vrai support de cagneux, j'allais vous dire, pardon, c'est pas de la médisance, c'est que le papier a de l'importance pour le contact charnel, on a souvent parlé de ça tous les deux, mais le nouvelliste a cessé peut-être d'être le parent pauvre du romancier, et il a permis d'attirer des gens comme moi. Moi, je suis pas du tout romancier, même si vous avez eu cette gentillesse dans votre propos introductif, je me sens plutôt, comme disait Richard Millet, prosateur. C'est-à-dire que peut-être la nouvelle, et c'est ça qui, je vais essayer de donner à lire mes nouvelles, j'ai essayé d'être quelque chose entre le roman, en tous les cas le genre narratif à proprement parler, et peut-être d'y amener un petit peu de prose poétique. Vous avez vu que de temps en temps, je m'autorise quelques saillies poétiques. Et c'est ce que disait d'ailleurs Mandia, c'est-à-dire que il a abandonné le roman définitivement pour la nouvelle. Je me permets de vous citer ce qu'il disait, parce que je trouve ça vraiment très approprié quant à mon travail.
Mettez-vous un petit peu plus près du téléphone, je crois.
Est-ce que ça va mieux, là ?
Oui, ça va mieux, oui.
L'une des meilleures raisons que j'ai de préférer le récit bref au long roman est que le premier rend acceptable au lecteur des outrances de sujet et des recherches de langage chargées qu'il supporterait difficilement dans le cas du roman. Et je trouve ça très juste, puisque du coup, vous avez quelques pages pour vous exprimer. Et donc, c'est également de dire, immédiatement vous accrochez ou non le lecteur, il n'y a pas de séance de rattrapage, et vous devez en quelques pages raconter une histoire qui, en général, se traduit par une chute, la fameuse
c'est
chute
vrai, d'ailleurs,
de la nouvelle.
Hein. Je vous coupe, j'ai lu plusieurs de vos nouvelles. Vrai. Effectivement, on a envie de tourner la page, quoi. Ça se lit très, très, non pas très rapidement, mais on a vraiment, il y a des nouvelles où on a envie de continuer pour savoir.
Je pense que c'est toujours cette question dont on disait, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc on tourne la page. Et donc je pense que c'est ça aussi une vraie nouvelle. Alors moi l'emprunt, ou du moins l'incursion, j'allais vous dire, dans le genre fantastique dont vous parliez tout à l'heure, elle est assez rare. J'en ai fait 2-3 d'ailleurs il y en a une qui va être, je crois vous l'avoir dit, une qui va être adaptée par le Grand Orchestre Philharmonique de Genève là au printemps prochain, et j'en suis pas plus fier, grâce aux images un petit peu imaginaires, parce que évidemment en termes de j'allais vous dire de scénique ou de d'appréhension de ces images par le metteur en scène, il faut aussi beaucoup d'images, c'est-à-dire qu'un récit qui serait plat, au style neutre, comme on dit maintenant, blanc, etc., c'est pour une nouvelle, c'est un peu compliqué, même si c'est très difficile d'avoir un style sec, un peu à la Morand.
Mais je dis pour les auditeurs, il y a des nouvelles qui sont très... si j'ose dire très triste, et puis on se dit zut, le dénouement, et puis il y a d'autres qui sont où on voit un peu le clin d'œil, là, je ne veux pas dévaluer, mais il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre.
Quand ouais, on qui est capable.
La chute est très amusante et très surprenante.
Vous attendiez pas. Alors,
non, je m'attendais.
La nouvelle dont vous parlez, c'est la neuvième nouvelle du premier volume.
Du premier,
vous attendiez. Vous attendiez à la chute, parce qu'on peut raconter, très vite la, mais on dira pas la fin.
Ah, faut pas dire la chute, oui.
Évidemment, c'est un homme évidemment qui semble très pieux, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui va être dont la foi, finalement, on peut le résumer comme ça, va être un peu éprouvée.
Voilà, exactement. Oui.
Hein, je ne dis que ça. Et à la fin, pour ne pas déflorer la chute, et nous ne sommes que des hommes, Marc.
Voilà. Et puis, il y a un autre, les auditeurs. Donc, je recommande l'ouvrage aux éditions Sans Crispation. Et j'ai vu sur le site de ces éditions qu'ils sont spécialisés, entre guillemets, dans les romans, la poésie et les nouvelles. Donc,
c'est ça. Ils ne font que ça. Alors, les nouvelles, il y en a de plus en plus, hein, puisque la collection, sans aucune fausse modestie, a été créée un peu avec moi, et je semble avoir fait des émules, puisque c'est un genre qui semble intéresser de plus en plus le public, plutôt dans ce genre de réhabilitation. Et j'ai un récit également, donc ils font en effet des récits et des romans, et vous avez vu que le graphisme éditorial correspond, c'est-à-dire que le rouge est pour les nouvelles, chaque collection a un graphisme très particulier, mais qui finalement se répond. C'est une petite maison d'édition, on peut en faire la comment le,
oui,
le,
publicité.
La publicité, comme on dit, oui, qui est dirigée par Philippe Sarr. Ils sont situés du côté de Pontoise dans le 95, donc. Ils sont indépendants, mais quand même diffusés par Pollen, que vous connaissez peut-être, puisque Pollen, c'est un diffuseur quand même assez connu, donc ils ne sont pas auto-diffusés, donc vous trouvez les bouquins partout, quoi.
Voilà, exactement. D'ailleurs, pour les auditeurs, nous allons organiser, vous serez conviés dans les prochains mois, une émission avec les petits éditeurs.
Qui existe encore, hein, Marc, c'est ce que vous... Et merci de leur rendre hommage au travers de cette émission, parce que... Alors, ils existent encore, mais ils sont, faut le dire quand même à nos auditeurs, pour acheter des livres d'éditeurs indépendants, parce qu'ils sont de moins en moins nombreux à pouvoir résister aux sortes de trust, pardon, d'employés. Hein, et vous allez me
un euro dans le cochon, dans le
noir. Ouais, c'est ça. Avec cet anglicisme affreux, mais il est de plus en plus difficile, je vais vous faire plaisir, de résister à cette concentration éditoriale, quoi.
Oui, d'ailleurs, indépendamment de la concentration éditoriale, il y a beaucoup de librairies qui sont en difficulté. J'ai vu récemment que la grande librairie Soran à Montpellier est en redressement judiciaire, le Furet du Nord également.
Donc, il y en a deux, à contre-propos de ce que vous dites, il y en a deux qui marchent très bien, c'est Mola à Bordeaux,
oui,
qui est une des plus grandes librairies.
Ah oui, oui, c'était France, impressionnant, hein, quand on va chez Mola.
Et vous avez, il y a Blanc dedans, là, je vais vous dire, à Toulouse, la librairie Blanche, mais ça ne s'appelle pas la librairie Blanche, qui est très très connue, qui marche également très très fort, donc je pense que c'est directement lié à la volonté du lecteur de les faire vivre, puisque du coup, dans le cas que vous dites, ça périclite, alors que dans d'autres villes,
oui.
Donc c'est directement lié aux achats et à la volonté des lecteurs de...
Et puis à la présentation du type de présentation de livres.
Certainement.
Il y a aussi Gilbert Jaune, là, qui n'est pas
vraiment indépendant, je veux dire, qui est maintenant une sorte qui pour moi dépasse la librairie indépendante, et je pense que c'est directement lié aussi de faire vivre la librairie, exemple Mola et Ombre Blanche, moi j'ai cherché le mot à Toulouse, la librairie Ombre Blanche, ils organisent des rencontres avec les auteurs quasiment tous les jours. Ça c'est important.
Il y a également à Strasbourg, place Kléber, je n'ai plus le nom de... La librairie,
il y a
effectivement...
Il y en a une très grande à Nancy également, mais je ne me rappelle plus.
C'est le hall du livre.
Ah voilà, c'est ça.
J'y étais il y a quelques jours.
Une très belle librairie également.
Hein. Oui, qui a changé un petit peu de place, qui est une très belle, très grande librairie, très belle. Il y a eu une petite crainte lorsqu'il a annoncé son déménagement, mais en fait, il a changé de quelques mètres simplement. Il est allé de l'autre côté de la rue, donc heureusement. Effectivement, on ne sait pas trop, mais la tendance médiatique, on a l'impression qu'il y a une baisse du nombre de lecteurs.
Ça, c'est sûr.
Et donc,
les nouvelles sont une bonne manière, peut-être, de rattraper le lecteur par la manche, puisque vous le dites vous-même, alors il y a une unité du recueil, on pourra peut-être en parler et pourquoi, mais rien ne vous empêche de la lecture de la 14 à la 2, etc. C'est peut-être d'ailleurs ce que
que j'ai fait. Je suis passé de cher petit soldat à,
oui.
à il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Et puis,
c'est deux bons exemples que vous donnez, parce que j'ai voulu rire aussi, hein, c'est-à-dire que la dérision.
Oui.
L'absurde, saisir l'absurde dans notre quotidien. Vous avez compris que c'était également une sorte de fil conducteur.
Absolument.
On a parlé d'il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Dans Cher petit soldat, j'espère que vous ne vous attendiez pas peut-être à la chute.
Non, mais je m'attendais, pour être franc, à quelque chose de pas trop charitable. Voilà.
Alors, donc on la résume en quelques mots. C'est un gamin dont les parents sont divorcés, dont le papa est très peu présent, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça.
L'auteur. Et chaque année, pour son anniversaire, le papa achète des soldats
de plomb.
Et évidemment, de ces soldats de plomb... le gamin va mettre un petit peu un terme à son enfance dans des conditions un petit peu particulières.
Oui, un petit peu, voilà. Oui. D'ailleurs, le papa n'a pas beaucoup d'imagination. Hein, puisque...
Le papa n'a pas beaucoup d'imagination. Lui en a pour son papa.
Voilà.
Avec la complicité d'un autre enfant dont le papa est policier. Je ne peux pas.
Voilà,
peux pas
oui. Vous en dites déjà trop. Et après, je suis passé à la nouvelle Le Monde d'après ou La Vertu de la Certitude, nouvelle qui a été primée.
Alors ça c'est dans un autre genre, là on s'approche plus de l'univers de celui que j'aime beaucoup qui s'appelle Gracq, puisqu'il a, faut rappeler que Gracq a été un nouveliste également, il a fait un recueil qui s'appelle La Presqu'île, et là si vous voulez, bien que resserré, on a le temps de développer, c'est ce que je disais tout à l'heure, la psychologie des personnages, et là en effet je me rapproche plus de l'univers un petit peu fantastique, etc. On la résume en quelques mots. Toute notion autobiographique est également gommée, hein, c'est pas parce que le narrateur s'appelle Philippe qu'il a un rapport avec votre serviteur. L'idée, c'est que il part en réalité, il habite une maison, il part en voyage, et ça va être un drôle de voyage, oui. On sait pas trop s'il va en revenir, je peux pas en dire tellement en plus. Alors c'est curieux, parce que l'éditeur a eu des retours de lecteurs, et alors, soit elle fait partie des trois les plus appréciés, soit les trois les moins appréciés.
Ouais.
C'est curieux, hein.
Ouais, oui.
C'est curieux. Parce que y a un peu plus de construction, il y a un peu plus de personnages, elle est un peu plus longue. Et en tous les cas, les deux, je vais vous dire les deux qui ont qui arrivent à chaque fois dans celles qui sont notées, comme
oui.
étant un peu surprenantes. Il y a le baiser du 13 novembre.
Oui, ah oui, ça c'est elle est courte, mais elle est dure.
Ah voilà. Et si vous voulez, ça c'est la définition même de la nouvelle, c'est-à-dire que ça va très vite et vous avez une chute. Les gens aiment beaucoup Le Chat derrière la vitre.
Oui. Ah oui.
Donc là, évidemment, avec un clin d'œil, on peut le dire avec un écrivain du XXe siècle très très connu, auteur du Voyage au bout de la nuit. Mmh. Et les gens aiment beaucoup également. Je m'y attendais pas. Rien que des ronces et un aspirateur. Sur ce couple qui visiblement ne va pas très bien et la décision a été prise par monsieur de se séparer de madame, mais tout va pas se passer comme
exactement bon. Et sur le voilà. Sur le tome 2 j'ai c'est une nouvelle assez longue, Une vie ou la rose des fables.
Ça vous avez aimé ça?
Ah oui, ça c'était elle est extraordinaire. Et puis
alors vous l'avez aimé pourquoi? Parce que alors on dit alors comme son nom
l'ambiance, la période,
la vie d'une femme de la Seconde Guerre mondiale à nos jours, avec découpé en tranches de vie, j'allais vous dire, qui correspond peu ou prou aux aimants les plus historiques les plus importants. Donc ça commence avec la Seconde Guerre mondiale, il y aura ensuite, mais toujours
oui,
attaché.
C'est ça qui m'intéressait,
c'est de rattacher. Vous avez compris que le deuxième est plus raccroché. Le fil conducteur, c'est plutôt les événements historiques en France. Et donc, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, les événements de mai 68,
voilà.
Et puis nos jours.
Et puis celle que c'est la dernière, je crois, du deuxième recueil, c'est La Mauvaise Chance. Et ça, c'est presque
d'accord.
Du Alphonse Allais. Hein. C'est...
Ah bon, vous trouvez?
La chute est assez comique, quoi, ou dramatique.
Oui, alors j'avais prévu une autre chute, mais je vous la dirai en privé, hors antenne. Alors l'idée, là c'est un couple de personnes, on disait autrefois du quatrième âge, qui voient petit à petit partir autour d'eux, la famille, les amis, etc. Ils décident finalement de ne pas en rester là et de faire une sorte de voyage.
Oui, c'est ça, il fait une course d'étape.
C'est ça.
Et faut laisser parce que c'est assez, la chute est très intéressante.
Ah, je vous ai étonné parce que certains disaient qu'elle était prévisible et moi je ne la trouvais pas prévisible du tout, quoi.
Non, elle n'est pas à la limite. Parce qu'en fait, comme ce que je vous disais, c'est que c'est assez court. Donc on a envie on lit la nouvelle d'une seule traite.
Allez, alors
donc on n'est pas à attendre le chapitre en se disant je sais pas, on ferme le livre, on fait autre chose et puis on revient. Non, là on a envie de tourner la page, de tourner la page suivante Et puis encore, et puis, comme c'est relativement court, on va pas dire j'ai autre chose à faire. Quand on a effectivement on une nouvelle de 150 pages ou de 100 pages ou un livre.
C'est compliqué.
Voilà. Ouais. Alors que là, comme c'était le 13 novembre qui est assez court, on a envie de terminer. Donc, moi, je m'attendais. Quoi sur celle-là, je ne m'attendais pas à ça. Alors, on pouvait. Effectivement, en s'arrêtant, on peut toujours. Voilà, donc c'est pour les, je dis ça pour les auditeurs, puisque c'est la période estivale, c'est le moment d'acheter des livres, et qu'on peut effectivement, à la limite.
La nouvelle, vous pouvez la lire, il y en a dans le premier une vingtaine, il y en a 17 dans le deuxième.
Et puis les titres, moi, j'ai choisi au départ, beaucoup,
alors,
c'est les titres.
Alors, je veux dire, les titres sont très importants pour la nouvelle, évidemment, puisque du coup, au-delà du recueil court lettrage, un petit peu pris comme long métrage, ou court métrage, évidemment, j'ai essayé de travailler particulièrement les titres pour donner au lecteur de s'arrêter sur chacune d'elles, quoi.
Voilà. On va faire une petite pause musicale.
Je vous en prie.
Comme on fait.
Bien sûr.
Et la chanson s'appelle Pas de nouvelles, bonne nouvelle.
Il y a si longtemps que j'attends. Où es-tu ce soir, ma belle? M'aimes-tu toujours autant qu'avant? Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Mais ce soir, je me sens si seul. Aussi seul que fort qu'appelle, et que l'envie de me saouler la gueule. C'est beau le grand nord, les sapins à perte de vue, et dans le ciel des aurores, comme jamais t'en as vu. C'est beau le grand amour, les promesses et les espoirs. Mais je te le jure, il y a des jours, j'ai le cœur qui ne sait plus croire. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais il y a si longtemps que je t'aime. Longtemps qu'elle brûle ma chandelle. Et qu'il tarde à venir ce poème. À perte de vue, et dans le ciel des aurores, comme jamais t'en as vu. C'est beau le grand amour, les promesses et les espoirs. Mais je te jure, il y a des jours, j'ai le cœur qui ne sait plus croire. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais il y a si longtemps que j'attends. Où es-tu ce soir, ma belle? M'aimes-tu toujours autant qu'avant?
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Vous êtes sur Radio Courtoisie et nous avons au micro, plutôt au téléphone, Philippe Pichon et nous allons reprendre l'entretien. Donc c'était la chanson « Pas de nouvelles, bonnes nouvelles » de Stéphane Faulkner et du groupe Les Cheminots Train de Vie. Stéphane Faulkner est né à Montréal. Voilà. Donc nous allons reprendre notre entretien sur concernant les livres de Philippe Pichon, les dernières publications, Court-Létrage 1 et 2.
Alors, donc, pour dire... Ah pardon, je vous en prie.
Allez-y.
Oui, pour dire à nos auditeurs, dans le volume 2, qui commence grosso modo avec les bâtisseurs de cathédrales, disons ça comme ça, et qui se termine avec votre mauvaise chance, dit votre, hein, puisqu'elle vous appartient maintenant, c'est-à-dire vraiment balayer tous les siècles.
Exactement.
Et chacune des nouvelles a tenté de mettre en avant un personnage connu, peu connu, mais dans une situation qu'on n'attend pas. Par exemple, La Venise aux deux visages, c'est un personnage très connu de la littérature. Au Café de Moni, c'est une époque très connue, évidemment, qui met en scène un personnage totalement inconnu, mais à la table de grand, j'allais dire. La Misérable, bah, c'est évidemment quelque chose d'écho à Victor Hugo, mais je ne dis pas quoi, etc.
Ce qui est amusant dans vos... C'est aussi amusant, c'est qu'il y a beaucoup de références. Donc c'est...
Alors, certains vous diraient qu'il y en a peut-être trop et que ce n'est pas intéressant, mais j'essaye de les faire les plus discrètes possibles.
Voilà, soit on reconnaît un petit peu ce qui sous-tend, ou pas d'ailleurs, et si on ne reconnaît pas, ce n'est pas gênant du tout, en fait.
Ce n'est pas grave, exactement. C'était l'idée. Et pour dire, il y a trois nouvelles là, qui ont été individuellement primées, et c'est curieux parce que c'est vraiment un esprit totalement différent. Donc là, la principale, c'est Page Blanche et Prévert, parce que là, c'était vraiment un thème qui m'a été... j'ai voulu participer à un petit concours, et Page Blanche et Prévert, donc le thème, c'était Page Blanche, et sans dire tout du coup de quoi il s'agit, c'est un écolier qui est muet devant sa feuille, et on va voir que cet écolier, plus tard, peut-être, aura quelques dons. Et la seconde, c'est Pierre à l'estomac, je ne sais pas si vous l'avez lu et si vous en rappelez.
Non, je ne l'ai pas lu, celle-là. Je n'ai pas lu cette nouvelle-là.
Voilà. Vous irez voir, parce que du coup, le titre, tout est dans le titre, j'allais dire, mais deux ou trois niveaux de lecture. Alors dites celle que vous avez éventuellement le livre, parce que
il y a la grande et belle nouvelle qu'on a parlé, La vie ou la rose des fables. Alors, celle-là est extraordinaire.
Vous l'avez aimée, celle-là?
Ah oui, celle-là, elle est extraordinaire. J'ai au Café Magny, voilà.
D'accord, donc là, avec c'est pareil, hein, le Café Magny, littérairement, ça a été un lieu de rencontre, évidemment, de d'écrivains, etc. Donc, je pars de ça pour arriver, donc on est, pour les auditeurs, hein, on est au milieu du 19e siècle, on appelait le Dîner Magny, donc à Paris, à rue de la Contrescarpe, il y avait tout le florilège des écrivains de l'époque, hein, Flaubert, Gautier, Hugo, etc., etc. Et donc, à partir de là, j'invente quelqu'un qui serait dans un coin de la salle et qui va prendre langue avec un des écrivains, et je n'en dis pas plus, puisqu'il va, en effet, le sous-titre de la nouvelle, c'est la chanson des sortilèges, puisqu'on va, on va flirter avec des choses un peu extraordinaires. Quoi.
Absolument. Et puis... j'ai retour de femme.
Il y a un point commun. Ah oui, bah alors vous l'avez vu. Alors évidemment, jeu de mots pour des raisons évidentes, oui. Mais vous connaissez la fin, donc voilà. Et j'aime bien aussi travailler les titres avec quelques à la fond soleil, avec, comme vous dites, puisque du coup j'aime bien qu'à la fin le lecteur se dise ah je comprends mieux.
Oui.
Et le point commun des deux. Oui, des deux livres, c'est également qu'il y a une petite entorse à la nouvelle. Ça s'appelle Sénette. Vous avez dû vous apercevoir de ça. Il y a des scénettes dans l'un et dans l'autre. Et là, l'idée, j'ai pas pu la pousser jusqu'au bout, c'est que j'ai pas voulu la laisser jusqu'au bout. Et là, vous avez des petites nouvelles qui font une demi-page. Exemple de ce type qui rentre dans un hôpital de nuit aux urgences et qui en sortira ou pas. Là, j'ai voulu, c'est ce que autrefois les écrivains appelaient des situations, c'est-à-dire qu'en 10 lignes, en 15 lignes, je peins une situation qui a pourtant une chute finale.
C'est ce que faisait, je ne sais pas, c'est... il y a quelques années à la SNCF, il y a 4-5 ans, on pouvait, en tout cas sur les lignes sud, pour aller à Nice par exemple, il y avait des bornes, on appuyait sur, sur un bouton et sortait une mini-histoire, comme sur un ticket, comme sur une note de supermarché. Donc une histoire qui faisait, le ticket pouvait faire 20 ou 30 centimètres, et donc en tout petit. Hein, et donc c'est, ça faisait, c'était une mini nouvelle.
C'est ça.
Et alors je ne sais pas du tout si est-ce que...
Ça c'est très c'est que c'est très compliqué, hein, puisque du coup tout doit être dit en très peu de mots. Hein, c'est 2006,
exactement.
Quoi,
donc,
hein.
Je me souviens, j'en prenais 2, 3, 4 et puis je prenais le train après. Alors sur les 3, 4, il y en avait une ou deux qui étaient, je me dis, c'est bien, ils font bien. Et puis d'autres, on dit, bon, c'était parce que là, quand on voyage, la critique est facile. Hein, on dit, oh, bon, c'est pas...
Ouais.
Oui, c'est pas c'est bon. Alors que j'imagine le travail. Alors c'était, je crois, primé par... C'était des de public qui pouvaient envoyer des nouvelles sur un site, je suppose, de la SNCF, et puis un jury les primaires.
Enfin, les textes primés, quoi, ouais, d'accord.
C'était intelligent.
Ils l'ont fait pour la poésie, rappelez-vous, dans
RATP.
Le métro.
Oui, c'était très bien, ça.
C'est ça. Il y avait quelques textes, comme vous dites, il y a des fois, il y avait quelques fulgurances, et puis il y a des fois...
D'ailleurs, c'était les meilleurs, quoi, les primés étaient dans les wagons, dans les voitures. Et donc, c'est bien, puis de parfois, on disait, bon, c'est pas... Mais bon, c'est la critique, c'était... Ça dépendait de l'humeur du moment, en réalité. Donc,
exactement.
Donc, nous avons encore, je crois, 3 minutes. Nous avons 3 minutes, donc on va évidemment terminer avec...
Alors, citer peut-être la dernière pour allécher encore un peu plus,
oui,
s'ils ont encore besoin de l'être, nos éditeurs, c'est qu'il y a une nouvelle policière... Pour moi qui étais policier,
oui,
parce que vous savez que
je vous étiez commandant de police.
Vous l'avez lu. C'est ça, mais je suis rétif au genre ou à la paralittérature roman policier, parce que c'est vraiment, j'y arrive pas.
Et vous êtes rétif à Maigret, je crois, et à Simenon.
Ah oui,
si je ne m'abuse.
Vous m'avez lu, hein.
J'adore, personnellement.
Bon. J'avais été précis la dernière fois, Simenon, qui est pour moi un écrivain de train de marchandises, pour être très précis, j'aime le Simenon des lettres à mon juge, du chat.
Oui, lettres à mon juge, très bien. Oui.
Je n'aime pas le Simenon des Maigret, puisque je trouve
C'est les romans durs, c'est ça, c'est les romans durs de Simenon.
Oui, ça, moi, je trouve que les romans durs, je pense à Carco, je pense à Eugène Dabi, des choses comme ça, donc je trouve que là, on est dans le roman social, pardon de l'expression, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mmh. Alors que les Maigret, je trouve que ça tire à la ligne, comme on le disait des fonctionnistes, comme s'il avait été obligé de servir X feuillets à son éditeur, je ne sais trop.
Oui, mais j'ai relu récemment Un Noël de Maigret, c'est toute petite, ouais. C'est vraiment, ça pourrait être une nouvelle, si j'ose dire, en termes de volume, ouais. Hein, c'est vraiment, une centaine de pages, même pas, et c'est du Maigret... On aime, on n'aime pas, mais bon, c'est vrai que ça se lit très facilement, hein, j'en conviens.
Donc j'ai fait une entorse à la propre règle que je m'étais fixée. Dans le volume 2, il y a une nouvelle policière, que vous n'avez peut-être pas encore lu, qui s'appelle « Si je t'aime, prends garde à toi ».
Non, je ne l'ai pas lu.
Voilà, j'en dis pas plus. Voilà. « Si je t'aime, prends garde à toi », je crois que le titre est suffisamment explicite.
Je crois que nos auditeurs seront... auront de quoi lire s'ils reprennent la bonne idée d'acheter ces ouvrages. Donc, ouvrages que l'on trouve visiblement dans toutes les bonnes librairies.
Ou à la commande de la librairie.
Ou à la commande.
En rayon, mais il n'y a aucun sujet.
Et je rappelle aussi, naturellement, les Hussards. Les Hussards, tout de même.
Oui.
C'était...
Que vous aviez aimé, je crois.
Pardon, excusez-moi.
Que vous aviez aimé.
Oui, les Hussards, c'était. Là, c'est pas du tout la même chose. Je rappelle. D'autant plus que l'édition, en particulier la couverture est de belle qualité.
Donc, ouais, sublime.
Et doit toujours, naturellement, comme c'est relativement récent, donc c'est toujours disponible dans toutes les bonnes librairies.
Et une bonne nouvelle pour nos lecteurs qui souhaiteraient me lire, c'est que les hussards sont désormais disponibles. Ils étaient disponibles à la FNAC.
Oui.
Elle était à Nancy et elle est rue de Rennes à Paris. Et me dit-on que c'est mieux d'être à la FNAC. Bon, alors allons-y, soyons à la FNAC. En tout cas, en termes de visibilité, ça veut dire que l'ouvrage a pris un petit peu de d'épaisseur, j'allais vous dire.
D'ampleur.
Même s'il est déjà happé, d'ampleur. Voilà,
et pardon, c'est sur ces derniers mots que nous allons nous quitter. Et je dis aux auditeurs, au 10 août.
Vous venez d'entendre Français, mon beau souci, dirigé par Marc Favre d'Echalens, émission préenregistrée le 22 juin 2026, diffusée sur Radio Courtoisie lundi 13 juillet de 10h à 11h et réalisée par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue. Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.